Je ne veux plus, selon la formule de Georges Bataille, remettre l'existence à plus tard. Je suis attentif à ta présence comme à nos débuts, et j'aimerais te le faire sentir. Tu m'as donné toute ta vie et tout de toi. J'aimerais pouvoir te donner tout de moi pendant le temps qu'il nous reste. Tu viens juste d'avoir 82 ans. Tu es toujours belle, gracieuse et désirable. Cela fait 58 ans que nous vivons ensemble et je t'aime plus que jamais. Récemment, je suis retombé amoureux de toi une nouvelle fois et je porte de nouveau en moi un vide dévorant que ne comble que ton corps serré contre le mien. La nuit, parfois, je vois la silhouette d'un homme qui, sur une route vide et dans un paysage désert, marche derrière un corbillard. Je suis cet homme, c'est toi que le corbillard emporte. Je ne veux pas assister à ta crémation, je ne veux pas recevoir un bocal avec tes cendres. J'entends la voix de Kathleen Ferrier qui chante « Die Welt ist leer, ich will Licht lieben mehr » et je me réveille. Je guette ton souffle, ma main t'effleure. Nous aimerions chacun ne pas avoir à survivre à la mort de l'autre. Nous nous sommes souvent dit que si par impossible nous avions une seconde vie, nous voudrions la passer ensemble.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
En 2006, André Gorz, théoricien plutôt pointu de l'écologie politique, ami d'Ivan Illich, introducteur en France de la pensée d'Herbert Marcuse, publie aux éditions Galilée un texte bref et poignant intitulé « Lettre à D » en hommage à la femme avec laquelle il partage sa vie et une totale complicité intellectuelle depuis 58 ans. Pour ceux qui l'ont côtoyé au Nouvel Observateur, dont il fut l'un des fondateurs en 1964 sous le nom de Michel Bosquet, comme au temps moderne où son mentor Sartre l'avait introduit, ce petit livre est une surprise. Gorz, de son vrai nom Gérard Horst, figure austère de l'intellectuel pur, s'y dévoile en effet d'une manière inattendue en brossant un magnifique portrait de Dorine, dont il révèle l'influence sur son œuvre en même temps que le mal terrible dont elle souffre depuis 40 ans. Et dans les dernières lignes, il annonce clairement qu'il ne compte pas lui survivre. En 2007, tous deux se suicideront. Acteur et metteur en scène, David Jesselson nous avait déjà proposé en 2014 un spectacle, En route, Kaddish, élaboré à partir de lettres et d'archives, retraçant la vie d'un grand-père parti s'établir en Palestine dans les années 30. Aujourd'hui, c'est dans la peau d'André, Michel, Gérard, qu'il s'est glissé, imaginant la dernière journée du couple, en dévidant le fil de leur vie dans des échanges ciselés, tantôt graves, tantôt jubilatoires. Si les mots exacts de lettre à D lui servent de point de départ et de point d'arrivée, David Jesselson a utilisé librement lettres, articles de journaux et autres écrits d'André Gorz pour dessiner, avec Laure Mathis dans le rôle de Dorine, ces deux personnalités complémentaires. Dorine, créée en novembre dernier au Théâtre de Vanves et depuis en tournée, est à voir jusqu'au 24 mars au Théâtre de la Bastille, puis en avril à Rennes. David Jesselson est aujourd'hui l'invité de l'humeur vagabonde.
Ne me change pas, laisse-moi chanter, on ne transforme pas, l'acier en étain, chimère courbée plus de 200 fois les chines, bâtie dans un bois qui ne plie pas. L'écorce du chêne tient, l'écorce du chêne tient, l'écorce du chêne tient. Puis soudain, soudain, crac, crac. Ne me change pas. Ne me change pas, ne me change pas. quelque part. Là c'est pour le gain. Là c'est pour le gain. J'en ai cru des merles noires, entendu ces mouettes au large. Petit moineau ne craint pas l'eau. Rage, petit oiseau, petit oiseau, aurais-je plus mal.
Ne me change pas,
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 ne me change pas.
Dorine a fini de lire la lettre pour la première fois. Elle m'a dit, Gérard, qu'est-ce que tu vas en faire maintenant? Et je lui ai dit, eh ben, on va essayer de la publier. Et j'avais l'intention de l'appeler Lettre à Dorine. Et elle m'a dit, tu peux pas me faire ça. Au moins, tu mets Lettre à D. Et j'ai trouvé ça génial. Comme titre, je veux dire, ça a du mystère. C'est beaucoup plus évocateur que de mettre le vrai prénom sur une personne.
Non, mais Dorine, ça n'est pas un prénom très courant en France. D'ailleurs, moi, je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'autre qui a ce prénom. Bon, il existe chez Molière, quand même. Mais ça... Ça, j'ai trouvé que ça, c'était trop, parce que ça fait exister pour les autres ce que je ne veux pas. Ça suffit déjà d'exister pour soi-même, c'est déjà lourd à porter. C'est très embarrassant, tout ça.
Bonjour, David Jesselson.
Bonjour.
On vient de vous entendre avec votre camarade Laure Matisse, tous les deux sur ce plateau où vous interprétez cette histoire d'amour entre André Gorce et sa femme Dorine. Lettre à D, pour beaucoup de gens ont lu ce texte. Il a eu, évidemment, une circulation beaucoup plus intensive que les textes théoriques de Michel Bosquet, d'André Gorce. C'est un livre que les gens se passent et se repassent. C'est une petite confrérie. Un livre d'amour, un livre intelligent, un livre violent aussi dans ce qu'il raconte. Mais en même temps, dans le spectacle, on entend les premiers mots au début, à la fin. Mais vous vous en êtes échappé très vite. Parce qu'en fait, ce texte, cette lettre à D, elle est immontable telle qu'elle au théâtre. Il fallait donc trouver de la pitance pour vous. Où est-ce que vous êtes allé fouiller?
J'ai commencé par Le Traître, que Gorce a écrit en 58, très tôt, parce que ce qu'il dit lui-même dans Lettre à D, qu'il doit se faire pardonner, il doit revenir sur l'humiliation publique qu'il a faite en 58 en parlant de Kay, il l'appelle Kay dans Le Traître, donc c'est Dorine, en disant d'elle que, pour dire les choses rapidement et pas reprendre ses mots, que bon, cet amour, c'était bien gentil, bien mignon, mais ça suffisait pas, et qu'il finissait par accepter de se marier avec elle, mais que bon, c'était faute de mieux.
Le Traître, en fait, c'est une sorte de petite autobiographie, un peu romancé aussi.
Absolument, c'est très... J'ai découvert Le Traître juste après avoir lu La Lettre à D en 2006, et en fait c'est d'abord très très drôle, c'est vraiment Woody Allen qui parle en disant « je vous parle » et en même temps « j'ai bien conscience qu'en vous disant je mens, car je ne suis pas moi-même sûr de qui est ce jeu », etc. Il y avait les 20 premières pages, moi m'ont fait beaucoup beaucoup rire. Et ensuite on rentre dans une autobiographie absolument romancé, où il raconte sa vie et il fait je comprends Le Traître comme une chose, je dis voilà, on est aliéné au monde, c'est pas possible d'être libre, alors il va falloir comprendre comment se libérer de ça. Est-ce que c'est en faisant son auto-analyse? Donc je vais la faire. Alors il raconte sa vie pendant 200 pages. Et à cette occasion-là, il parle de sa vie avec Dorine. Ou est-ce qu'il faut critiquer le modèle de société dans lequel on est? Et il le fait aussi. Et il dit très bien, à la fin, que le livre lui a permis de devenir quelqu'un, non pas par le contenu, mais par le simple fait d'écrire.
Et d'être publié.
Et d'être publié. Et il dit, à cette occasion-là, j'oublie de dire que c'est aussi parce qu'il y avait une femme à mes côtés qui m'a permis d'exister et qui m'a supporté pendant ces années-là, où j'étais, il faut bien le dire, odieux. Donc j'ai commencé par ça, et j'ai commencé par vouloir écrire une sorte de scénario, au début, en prenant la vie qui racontait sa vie à lui. Donc au tout début, c'était très loin du spectacle qu'on a fait actuellement. Je voulais raconter ces années pendant la guerre. Il se raconte en Autriche, les années en Suisse, etc. Mais c'était trop long, trop dense, trop compliqué. J'ai abandonné le projet. Et des années après, j'ai eu la chance de pouvoir aller à l'IMEC, l'Institut Mémoire des Éditions Contemporaines, où Gortz a laissé toutes ses archives privées et professionnelles. Et là-dedans, j'ai fouillé. J'ai eu accès à beaucoup de choses. Il y avait beaucoup, beaucoup d'essais, de brouillons de ces textes théoriques qui étaient absolument non théâtraux aussi. Et puis j'ai trouvé des toutes petites choses. J'ai trouvé des énormément de photos. Il y a beaucoup de photos du couple. J'ai trouvé des choses très bêtes, des actes de notaire qui m'ont permis d'inventer des choses. Le carnet de naissance de Gérard où sa mère a coupé une mèche de cheveux qu'elle a scotché. Elle est encore là, à l'IMEC. Le passeport de son père avec un tampon du Troisième Reich, son père juif, avec qui sa mère s'entendait très mal. Et j'ai composé comme ça, en prenant la lettre AD comme cadre chronologique, j'ai décidé d'extraire des séquences en me disant, par exemple, il dit dans lettre AD, je n'aurais pas pu écrire les articles que j'écrivais sans Dorine. Et j'ai lu Ecologica, qui est une œuvre qui avait paru à titre posthume, qu'il avait prévu, lui, avec les éditions Galilée, il avait dit, je voudrais qu'il reste ça, une sorte de parcours facile d'accès de ce que j'ai écrit dans le Nouvel Obs et ailleurs. Et donc c'est une suite d'articles, très simple, pour le coup très accessible. Et il y avait notamment l'idéologie sociale de la bagnole, qui est un article qu'il a écrit en 73, qui me sert à écrire une des scènes du spectacle. Donc je prends ses arguments, je lui vole littéralement, mais je les mets en conflit avec Dorine, ce qui n'a probablement pas existé, j'en sais rien. En tout cas, j'essaie de mettre en scène ce que lui raconte.
C'est vrai qu'au départ, David Chesselson, de toute façon, la vie d'André Gortz est un roman. C'est une formule un peu galvaudée, mais c'est vrai. On va l'écouter d'ailleurs, lui, en 1991, parler de ses parents et de son arrivée en France.
Mon père était juif et ma mère était catholique. Et comme tous les centres européens, plutôt antisémite par sa tradition familiale. Ce qui fait que je suis né dans une famille où rien de ce qu'on pouvait attendre de moi n'était ce que je pouvais fournir. C'est-à-dire que l'attente des uns comme des autres était une attente que je ne pouvais pas satisfaire. C'est donc par rapport à ma famille, à la culture originelle, aussi bien paternelle que maternelle, en porte-à-faux. Et toujours coupable. Coupable de ne pas être ce qu'on attendait de moi, que ce soit d'un côté ou de l'autre. J'étais rejeté sur moi-même. Il n'y avait aucune vérité, aucune attente dont je pouvais dire voilà ce que je dois faire. Parce que je ne pouvais pas. Donc j'étais un fils plutôt soumis à ma mère qui essayait de correspondre à son attente à elle tout en sachant que c'était impossible. Et comme elle attendait de moi que je sois un arien viril et germanique, il est évident que ma soumission à elle était exactement le contraire de ce qu'elle pouvait attendre de moi. Et de là vient de ce que j'appelle l'absence d'identité, c'est-à-dire que j'ai grandi sans avoir aucune image de moi-même. En plus, ma famille a changé de nom une première fois en 1930, puisque mon père avait un nom qui peut être juif, qui peut ne pas être juif, mais en tout cas, comme il a jugé préférable de changer de nom. Ce qui fait que je n'ai même pas une identité nominative, nominale.
David Chesselson, dans ce court extrait d'une intervention de Michel Bosquet, André Gortz, Gérard Hortz, il y a vraiment la faille originelle, ce manque d'identité, cette incapacité à être en fonction des volontés antagonistes de son père et de sa mère, déracinés, ballottés pendant la guerre, sans identité, sans passeport, sans nationalité. Voilà comment il était et ça articule beaucoup votre spectacle.
Oui, en fait, c'est quelque chose qui m'a profondément intéressé en fait et touché quand j'ai lu la lettre AD. Ça a résonné avec des questions, moi, que j'ai là-dessus. Et d'une certaine manière, oui, c'est ça qu'on a tiré comme fil. C'est-à-dire, m'intéresse la question du lieu où possiblement on peut vivre et où on peut possiblement aimer. Et j'ai vu et j'ai lu chez Gortz cette question du lieu comme étant vitale. Et il n'y a pas de lieu pour son identité possible. Il n'a pas de lieu pour un langage sûr. Il dit qu'il parlait plusieurs langues. Dans la suite de l'interview qu'on vient d'entendre, il parle de ça, du rapport au langage. Quel est le lieu où on peut parler et être vraiment en possession de sa propre langue? Et il semble dire qu'avec Dorine, il trouve un lieu où il peut vivre et où il peut exister sans avoir à répondre à une identité quelconque. Il ne peut répondre qu'à l'amour qu'il éprouve pour elle et vice-versa, sachant que c'est compliqué et que d'abord il y résiste et que même dans le fait d'aimer, on sent que ça le catégoriserait dans quelque chose, ça le ferait devenir quelqu'un. Or, il ne veut pas. Il veut en permanence échapper à une identité. C'est ça qui est paradoxal, en même temps très intéressant, je trouve, humainement. C'est que à la fois il boite parce qu'il n'a pas d'identité, il en souffre, et en même temps, dès lors qu'on va lui en coller une, il la refuse. Et il est dans cette tension permanente.
D'ailleurs, il y a une scène. Vous dites. Bon, Dorine lui a permis, au fond, d'exister. D'ailleurs, il le dit assez clairement. C'est grâce à elle qu'il est devenu Michel Bosquet, André Gorz, qu'il s'est posé quelque part. Et il y a, dans votre spectacle, David Jesselson, une scène à la fois drôle et dure, où, à un moment, Dorine, qu'il a rencontrée juste après la guerre, lui dit qu'elle souhaite l'épouser. Il se révolte avec des mots d'une extrême violence. Et puis, à la fin de cette dispute, il y a l'explication quand il dit « je ne suis rien et au fond, je pourrais aussi bien me tuer ».
« Je suis rien. Je suis zéro. Comment est-ce que tu peux m'aimer ? Il y a un malentendu. C'est un malentendu. Simplement, moi, je le sais. Je suis déjà au courant. Alors, je t'en informe. Voilà. Je te préviens. Je n'ai pas d'étoffe. Je n'ai pas d'épaisseur. Ce n'est pas vrai. Moi, j'ai pas de prénom, même. Je suis un poids déterminé par le fait de me nourrir. Et j'abrite un ensemble de phénomènes physiques et chimiques qui font que je finis par constituer une masse qui évolue à force. Et c'est tout. Je suis un poids vide. Je ne suis rien. Et rien ne sort jamais de rien. Et même ça, c'est pas de moi. C'est Shakespeare. Je suis ridicule. Là, tu me rends ridicule, en plus. Je pourrais tout aussi bien me jeter par la fenêtre, ça ferait quoi? Et à qui? J'ai jamais compris pourquoi est-ce que les gens arrivent à vouloir vivre. C'est pas vrai, c'est faux, c'est pas naturel. On ne veut pas vivre, c'est beaucoup trop compliqué. C'est la société bourgeoise et capitaliste merdique dans laquelle tu débarques quand tu viens au monde qui te fait croire ça, et qui te formule tes désirs et tes besoins, mais c'est faux! Se tuer, c'est beaucoup plus simple. Et la déception, si jamais tu regrettes à un moment de te tuer, je veux dire, si tu avais fini par trouver une vraie raison de vivre, eh ben la déception, elle dure pas très longtemps. Il faut choisir, et puis c'est tout, on saute. On fait le choix, et ça va très vite après. Enfin, ça peut aller très vite, et c'est tout.
David Jesselson, en fait, cette espèce d'attirance pour la disparition, pour le suicide, il va mettre 60 ans à la réaliser. Mais là, on entend déjà la fêlure. Ça intervient, cette préoccupation, au lendemain de la guerre, quand juste avant, en fait, qu'il consente à épouser Dorine et qu'il commence à trouver un axe pour sa vie.
Oui, il a, dans les archives que j'ai trouvées, j'ai aussi écrit ça parce que j'ai trouvé qu'en, dans les années 40, il est en Suisse, il est assez perdu, il a échappé à la guerre parce que sa mère l'a fait fuir d'Autriche pour pas qu'il soit engagé dans l'armée. Et il a une existence un peu post-adolescent, il a 20-21 ans. Et à Limeck, il y a deux romans inachevés. Il y en a un qui s'appelle Vie morte et l'autre Les trois bonheurs, dans lequel ce sont vraiment des écrits adolescents où il est, vraiment, il explique que la vie n'a pas de sens et que ça ne sert à rien et qu'il n'y en a pas besoin de vivre. Et on le retrouve évidemment dans le trait mieux articulé, mieux conçu. Et en fait, ça m'a donné une porte d'entrée extrêmement claire sur sa difficulté à vivre. Il la nomme beaucoup dans le traître, mais là, dans Vie morte et dans Les trois bonheurs, c'est mal écrit, en fait. C'est très maladroit. Et donc, c'est très touchant parce qu'on voit un type de 20 ans qui se dit « mais c'est pas possible ». Et il a beaucoup d'histoires, apparemment. On comprend que c'est un homme très beau, très mystérieux, très torturé, il plaît aux femmes, mais ça marche pas, il s'ennuie, il finit par s'ennuyer. Effectivement, quand il rencontre Dorine, après-guerre, il y a quelque chose qui se noue, mais on sent que ce qu'il dit dans la lettre AD, ce qu'on comprend qu'elle lui a donné une vraie raison de vivre, c'est pas un vain mot. Il me semble, mais c'est de la projection, que il a vraiment pas le désir de vivre. C'est pas possible. L'existence n'est pas du tout supportable.
En tout cas, dans Lettre à D, il le dit très clairement. Il dit que s'il n'avait pas rencontré Dorine, il ne serait sans doute pas là. On va écouter la voix de Dorine dans cette fameuse émission Surpris par la nuit de France Culture en 2006, justement au moment de la parution du texte. Elle a un petit commentaire et on comprend beaucoup de choses en écoutant sa voix.
je n'ai jamais eu ce report où on refuse quelque chose. Il est libre de publier ce qu'il veut, et comme moi je suis libre d'estimer que telle ou telle partie, je préférerais qu'il ne le publie pas. Mais jamais je pouvais dire, mais tu ne peux pas. On n'a jamais eu ce genre de report.
Vous vous reconnaissez?
Oui, oui. J'étais bien sûr très touchée. Je n'étais pas sûre que c'était quelque chose qui pouvait être publié. C'est-à-dire, je considère que c'était notre vie privée et ça ne regardait pas les autres. Ça m'a fait peut-être exister pour les autres, ce que je n'ai pas envie. Ça suffit déjà d'exister pour soi-même, c'est déjà lourd à porter.
David Jesselson, on entend cet accent anglais qu'elle n'aura jamais perdu. Et puis, on comprend que Dorine, la femme d'André Gorz, la femme de Gérard Horst, était à la fois indispensable, c'est-à-dire que, oui, même y compris pour son travail d'intellectuel, et en même temps, elle était effacée. C'est-à-dire que jamais on ne la voyait dans les lieux où Gorz allait, et elle n'avait pas assisté à ses prises de parole publiques. C'est assez étrange ce choix, et en même temps, ça campe bien la personnalité de cette femme.
Oui, moi ça m'a interpellé, parce qu'effectivement la lettre elle est à la fois magnifique parce qu'elle est une déclaration d'amour, on imagine cette femme, mais il ne parle quand même que de lui. Il fait son portrait à lui aimant, voulant faire son portrait à elle. Et c'est très troublant parce que après, je pense que chacun y réagit différemment, on pourrait considérer ça comme très machiste et pas très juste. Dans le fond, je pense qu'il ne faut pas le juger. Moi, ça m'a fait envie de l'imaginer, ça m'a donné envie de l'imaginer, de savoir qui c'était, qui elle était, elle. Parce que ça donne la sensation qu'elle est certainement beaucoup, encore plus présente que ce qu'il ne dit. Et après, en rentrant dans leur histoire, on comprend aussi que la maladie qu'elle a, l'arachnoïdite qu'elle subit après cette injection dans les années 60, très vite, ça lui rend la vie compliquée. Et ça rend les déplacements compliqués, et ça rend la douleur permanente. Et j'ai lu ça beaucoup dans les... J'ai fait une petite étude, une petite recherche sur les symptômes de l'arachnoïdite et ce que ça provoquait. C'est un enfer sur Terre, incurable, pour lesquels la plupart des traitements médicamenteux échouent. Et elle a fait partie des 2% de patients atteints d'arachnoïdite qui ne se soignaient pas avec de la médecine allopathique. Ce qui veut dire qu'elle subissait, elle supportait des douleurs intolérables depuis la fin des années 70 jusqu'en 2007. Et donc, j'imagine que ça rentre en ligne de compte dans sa discrétion, quand même.
I'm walking out the door with you on my mind. I'm walking out the door with you on my mind. But every step away from you, I feel like crying. I walked into the street, talking to myself. I walked into the street, talking to myself. No matter what my conscience says, I'm thinking about nobody else. I met a brand new chick, phoned to make a date. I met a brand new chick, phoned to make a date.
But when I rang her number up, I got your number by mistake. You say you love me, baby, don't know what to do. You say you love me, baby, don't know what to do. I'm sure of one thing, I'm in love with you.
Gérard, qu'est-ce que tu as avec la voiture? Tout le monde a une voiture, nous on a même deux voitures.
Non, mais c'est pas le problème, je te parle pas
si,
de nous là.
C'est le problème. Si t'as un problème avec la voiture, commence par revendre les nôtres.
Mais non, mais ça n'a rien à voir.
Mais évidemment que ça a à voir. Ça rend libre la voiture. Regarde. Non, mais toi, elles te rendent libre, tes voitures.
Non. Non, elles me rendent pas libre. J'aimerais bien, hein. Mais la réalité, c'est que ça débilite. La voiture, ça rend les gens débiles, ça nous rend dépendants. Si, alors qu'il y a tout un tas d'autres moyens de transport qui te permettent de conserver ton autonomie, ton indépendance. Par exemple, tu vas aller à cheval quelque part. Mmh. Tu peux apprendre à faire du cheval. C'est à la portée de n'importe qui. Et t'as besoin de rien d'autre.
Ah bon?
Bah non.
Bah si, t'as besoin d'un cheval.
Non. Je veux dire, même un vélo, disons. Tu vas aller quelque part à vélo, t'apprends à faire du vélo, tout le monde peut le faire. Alors que si t'as un problème avec ta voiture, la quantité d'experts qu'il te faut pour la réparer, c'est totalement aliénant. Et même juste pour lui donner de l'essence, pour qu'elle fonctionne. La quantité d'experts et d'intermédiaires qu'il te faut pour faire fonctionner une seule voiture, c'est gigantesque. La voiture, ça te promet d'être libre au départ. Mais en fait, ça fait de toi un esclave.
Oui. Mais bon, le cheval aussi, ça fait de toi un esclave. Il te faut une écurie, un éleveur, un type pour le dresser, ton cheval, du foin. Il te faut aussi des experts pour faire du cheval. Il te faut des experts en chevaux, quoi. Non, ta question, c'est pas ça. La question, là, c'est l'essence. Avec la voiture, t'es dépendant de l'essence, du pétrole. Ton problème, c'est ça. Tout le monde est dépendant du pétrole, puisque tout le monde a une voiture, voire deux. Tout le monde est dépendant d'une seule entreprise, d'une seule industrie.
Oui, bon, donc on est d'accord.
Oui, mais donc il faut que tu parles de ça, pas des experts. Il faut que tu parles du fait qu'avec la voiture, l'industrie du pétrole détient un monopole dont l'humanité, enfin, disons la part de l'humanité qui a une voiture, est entièrement dépendante.
Est-ce que ce serait possible de t'épouser?
Non, mais arrête, on discute, là.
Non, mais, et alors?
David Jesselson, dans cet échange entre vous et Laure Matisse, qui interprète Dorine, on sent bien, justement, à quel point elle le remettait en place. Enfin, il y a à la fois l'humour, la logique, mais il y a aussi le fait que cette femme le poussait à aller au bout de ses raisonnements. Et l'importance de Dorine, j'imagine que dans les archives, vous l'avez rencontrée.
Mais non, justement pas. C'était
ça. C'est vous qui l'avez imaginée.
Oui, c'est-à-dire que ce qui est très troublant, c'est qu'elle disparaît des archives. La seule chose qu'on voit, ce sont des photos. Il n'y a rien dans les archives, en tout cas que j'ai pu trouver. Mais j'ai voulu imaginer ça parce que c'est ce qu'il dit, lui. Et donc je me suis dit, ben, faisons-le vivre ça. Il dit, elle m'a rendu l'existence possible et elle m'a permis d'aller, ce que vous dites, au bout de mes pensées. Elle s'élevait contre ma passion des statistiques et mes obsessions des statistiques en disant qu'il fallait que je sois aussi plus terre-à-terre et plus cohérent.
Mais vous qui vous êtes plongé dans les écrits d'André Gorz, est-ce que vous trouvez qu'il est hermétique ou qu'il est clair?
Il est globalement hermétique, mais il fait un effort de clarté au fil du temps, j'ai la sensation. Et il y a un certain nombre d'ouvrages, comme Métamorphose du travail, et notamment Ecologica. Métamorphose du travail, c'est très exemplaire parce que c'est très complexe. Il y a 250 pages, vraiment, il faut s'y coltiner. Sauf qu'à la fin, il fait 40 pages, qui s'appelle Résumé à l'intention des syndicalistes, et où il résume en 40 pages tout le livre, avec une simplicité désarmante. C'est magnifique, c'est d'une clarté absolue.
Et en plus, il a vu quelque chose de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, de cette démence du monde du travail et de ce qu'il appelle la barbarie qui arrive. On l'écoute.
Bon, bref, ça montre que partout, on produit de plus en plus en travaillant de moins en moins. Et il faut réfléchir à ça, il faut faire quelque chose de ce temps qui est libéré pour les travailleurs. D'abord, il faudrait commencer par redistribuer les richesses qui sont produites dans des quantités de plus en plus importantes. Il faudrait faire en sorte que les gens regagnent du temps, mais du temps pour rien, hein, du temps pour vivre, penser, élever ses enfants, faire des choses inutiles, fabriquer des choses qu'on peut pas vendre. Il y a quelque chose qui devient radicalement différent avec les technologies qui sont là, et si on n'en fait rien, c'est-à-dire si on pense pas à ça, si on se saisit pas de ça, tôt ou tard, on ira à la barbarie. Et ce sera logique, parce qu'on est dans une chose impossible. Là. Il y a pas de reconnaissance de soi possible dans le système, on se perd. Le système n'est pas fait pour les individus, ce sont les individus qui doivent devenir des outils du système, des outils pour faire fonctionner le système. On se perd avec ça, on en arrivera à notre perte.
Et on finira à la barbarie, et ce sera logique. S'il y a une chose à faire pour rendre tout ça vivable, c'est pas par le renversement de l'industrie que ça doit passer, ou la destitution du patronat.
Qu'est-ce que je t'aime.
Il faut penser autrement. S'il y a une liberté possible, précisément, c'est en dehors du travail qu'elle aura lieu. Est-ce que t'as entendu parler de ce film, Mad Max, qui vient de sortir? Je crois qu'il faut qu'on aille voir ça.
Et tu veux y aller en Austin, ou tu préfères prendre ta Renault carrosserie spéciale? Ah, ou alors à pied, sinon. C'est peut-être plus cohérent, non?
David Jesselson, dans ce petit extrait, on voit bien comment vous avez travaillé, c'est-à-dire avec la réalité des écrits d'André Gorz et avec votre liberté de créateur, parce que ça, évidemment, vous l'inventez.
Oui, je l'invente. C'est-à-dire, je prends typiquement cet extrait, il est une sorte de synthèse que je fais de Métamorphose du travail. Je triche, parce qu'évidemment, je synthétise 250 pages en un monologue très court. On a failli l'enlever à un moment donné, parce que c'était trop peu par rapport à tout ce qu'il en dit. Mais c'était ça l'idée, c'était de dire, je prends sa pensée en train de se faire. Et de dire, on est dans les années 80, il est en train de commencer à réfléchir, d'étudier les statistiques, et il est avec elle, et elle est malade. Et c'est le moment où il décide de changer de maison, et de se retirer de sa vie active et de travail. Et donc, comment ses préoccupations à lui, et leurs préoccupations à eux, viennent croiser des préoccupations politiques et sociales, ça m'a intéressé de le mettre en jeu, de le mettre en scène avec elle et de montrer que ce qu'on entend là, Laure qui joue Dorine qui dit « Est-ce que tu veux y aller en carrosserie avec ta voiture carrosserie spéciale ?» C'est aussi une manière de montrer son incohérence, c'est des choses qu'on m'a racontées. Il écrit tout un article contre l'avènement de la voiture et il était fou de bagnole, il adorait les voitures. Là où il est cohérent absolument, c'est que au moment où il écrit Métamorphose du travail et où il plaide pour la réduction du temps de travail, et où effectivement il est absolument visionnaire là-dessus, en parlant du développement de l'hyperproduction, du remplacement des travailleurs par des machines-outils, et qu'il faudrait se retirer, il faudrait que les travailleurs puissent avoir du temps pour eux, c'est très exactement ce qu'il décide de faire lui, pour sa propre vie, et pour sa vie avec Dorine. Il écrit aussi à ce moment-là, et c'est vraiment tout à fait incohérent, et moi je trouve ça intéressant, il écrit « Il faut cesser, par exemple, dans Métamorphose du travail, d'avoir recours aux services à la personne. Les femmes de ménage, les aides à domicile, etc. etc. » Et ils ont une femme de ménage. Et il y a quelqu'un qui vient les aider à la maison. Et donc, tout en ayant beaucoup de temps pour lui, il travaille comme jamais, il a jamais autant écrit que quand il est à la retraite, il écrit enfin des essais plus importants, il arrête effectivement le journalisme. Et dit dans la lettre AD, je voulais me consacrer à l'essentiel. Et c'est aussi un paradoxe, c'est-à-dire qu'il se consacre à l'essentiel qui est Dorine, mais aussi à sa propre pensée. Oui, c'est ça que j'ai voulu essayer
mais
de mettre en lumière.
Mais probablement parce que c'était devenu indissociable, c'est-à-dire que d'ailleurs, quand il annonce leur suicide à venir, c'est aussi parce que une fois Dorine disparue, il est probable que même son esprit aurait cessé d'être cohérent et enfin, de pouvoir être utilisé par l'écrivain qu'il était.
Absolument, on a l'impression qu'elle le cadre et qu'elle le canalise, quelque chose comme ça, c'est ce qu'il en dit. Après, j'ai trouvé dans les archives de l'IMEC une chose qu'on met dans le spectacle, dont on a volontairement effacé la date, qui est très troublante, parce qu'il annonce aussi, dès les années 70, qu'il ne voudra pas les survivre. Et j'ai trouvé une note qui date des années 77-18, juste après que Dorine soit guérie de son cancer de l'endomètre. Pendant qu'elle est, elle sort de son opération, elle se fait opérer, et il dit je ne veux pas te survivre. Maintenant que je sais que je me tuerai, que nous nous tuerons ensemble si jamais tu ne survis pas, enfin si jamais tu as un problème, alors je sais qu'on peut regarder l'avenir du même point de vue. Et ça c'est très troublant parce que ça veut dire que c'est pas seulement un désir de vie qu'elle lui permet d'avoir. Elle lui permet de régler son problème de désir de mort. Elle lui permet de dire bon, de toute façon, si t'es là, je peux être là, mais je sais que grâce à toi, je pourrais aussi mourir. Je pourrais partir à tes côtés. Et donc, il y a quelque chose d'extraordinairement fusionnel entre eux.
Oh, my hopeless wanderer, you can't come in, you don't live here anymore. Some creepy conjurer who touched the rim, whose hands are in the door. I need soothing. change of course, a strange discord resolve. I need soothing, my lips aren't moving, my God is brooding. See you with love. I banish you with love. You can't come in. You don't live here anymore.
Vagabonde sur France Inter.
C'est toujours le danger de la dérive vers la littérature. La littérature est à la fois un miracle et une maîtresse. Elle a toujours tendance à tout vouloir tirer à soi. Elle a ses propres lois, sa propre pesanteur. Et le danger, c'est toujours de vous écarter du vécu authentique pour le plaisir de faire de la littérature. J'ai pensé que je résistais. Et par moments, vous avez besoin de la littérature pour ne pas dire, mais pour évoquer. Et ça, ce sont les passages que, à l'expérience, en le relisant, j'ai trouvé émouvant, qui m'ont fait pleurer moi-même. Rien que de décrire une femme qui marche les pieds dans l'eau, c'était pour moi autrement signifiant que toutes les déclarations d'amour que j'aurais pu faire.
La voix d'André Gorce en 2006, on sent déjà la fatigue et la vieillesse, et puis il sait qu'après ce livre, il y aura la fin. Mais quand il dit, David Jesselson, que dans ce texte, Lettre à D, qui est un très beau texte, il fallait aussi se méfier de la littérature, il ne s'en est pas toujours très méfié. Il y a parfois des moments où il plonge carrément dedans. D'ailleurs, on sent là quand il dit une femme, sa femme marchait les pieds dans l'eau, sa voix se brise. En fait, ce texte, c'est tout d'un coup quelque chose de très particulier dans l'écriture d'André Gorce. C'est la première fois où il se laisse complètement submerger par l'émotion. Mmh. Alors, certains diraient par le pathos, mais bon, il avait quelques raisons. Mais c'est vrai qu'on voit ce qu'il s'est empêché d'être toute sa vie. C'est-à-dire qu'on vous disiez tout à l'heure que vous aviez lu des choses parfaitement incompréhensibles. En fait, en regardant votre spectacle et en sortant, je me disais, mais au fond, cet homme, il s'est sans doute créé une armure d'intellectuel impénétrable, accessible qu'à une toute petite élite, alors qu'au fond, il aurait pu être un écrivain à la Stefan Zweig, quasiment. Il aurait pu écrire des livres d'amour.
Absolument. Et que ça soit dans Le Traître ou dans Lettre à D, et même dans les romans inachevés dont je parlais tout à l'heure, il y a des passages qui sont de la pure littérature. Il a quand même une capacité à mener des récits qui est magnifique, qui est extrêmement bien construite. Moi, j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de chance de pouvoir lire le brouillon de Lettre à D quand j'étais à l'IMEC. Et donc, j'ai pu imaginer Gérard à sa table en 2006, et il écrivait sur des A4 pliés en deux. Et donc, c'est bourré de ratures. Mais on voit qu'il décide de faire de la littérature au fil de l'écriture. C'est vraiment très beau qu'il ait laissé ça. Le manuscrit, donc il y a les premières pages qui sont un premier jet, qui ne sont pas corrigées. Puis au fil du temps, il triche. Et il met en scène des choses. Et il en enlève. Il y a des choses qu'il cache. Il dit pas, par exemple, moi je lui ai volé, je mets dans le spectacle, qu'il découvre qu'elle a une boule, qu'elle a un kyste derrière l'œil d'Aurine. Il raconte toute la chose sur le cancer de l'endomètre, il en dit beaucoup moins, il le romance. Il se met lui-même en scène en disant qu'il a essayé de graver son prénom sur une pierre. En fait, il aurait, il dit, j'ai gravé ton prénom sur une pierre, évidemment. Ah, oui, il fait œuvre de littérature complètement, mais il est toujours dans cette ambiguïté, c'est-à-dire qu'il dit, il le dit là, c'est assez touchant ce qu'on entend là, parce qu'il se dévoile quand même, il dit... parfois on en a besoin.
Mais d'ailleurs, quand il dit ça, c'est se méfier de la littérature, c'est parce que c'est vrai que ce texte aurait pu tomber dans une sorte de bouillasse sentimentale, ce qui n'est pas le cas. C'est parfois, effectivement, pathétique, mais c'est tellement beau, cette histoire d'amour. Ceci dit, en écrivant cela, André Gors marchait sur un fil. Vous-même, David Jesselson, en créant ce spectacle, vous marchiez aussi sur le fil, parce que ça pouvait assez facilement tomber dans la vie privée, le pathos. Ça n'a pas dû être simple. J'imagine aussi que, tel André Gors élaguant, vous avez dû élaguer pas mal de choses.
C'était effectivement pas simple du tout. Et en fait, j'ai pas tant élagué, mais j'ai peu écrit. En fait, je n'arrivais pas à écrire beaucoup, parce que dès que je me mettais à écrire beaucoup, ça devenait pathos, pathétique, ennuyeux, caricatural. Et du coup, on a travaillé par le silence beaucoup, et on a travaillé beaucoup sur le non-dit. Ce qui a été très compliqué, c'est qu'à un moment donné, le non-dit en répétition, il se passe rien. Et du coup, il y a beaucoup de séquences que j'ai écrites et qu'on a travaillé avec Laure, des histoires que Laure m'a racontées, qui étaient des à côté, qui ne se suffisaient pas. Et c'est beaucoup, beaucoup l'équipe de collaborateurs artistiques et techniques du spectacle qui ont permis au spectacle et au texte de dire plus. S'il n'y avait pas eu les idées partagées de Loïc Leroux au son, Lisa Navarro à la scénographie, Jérémy Scheiler à la vidéo, et d'Elios Noël qui est le collaborateur, il y avait des séquences qui fonctionnaient pas, qui étaient trop faibles. Je trouve ça atrocement difficile et complexe de raconter une histoire d'amour, et surtout celle-là, elle marche bien, tout va bien, tout se passe bien. Bon, bah. Et après, so what?
Mais oui, mais d'ailleurs, quand vous dites travailler sur le non-dit, ça semble pas simple au théâtre, mais en fait, on se rend compte, en voyant votre spectacle, David Jesselson, que c'est l'environnement, les échanges de regards, le ton de la voix, les raclements de gorge de Laure Mathis qui interprète Dorine. Alors évidemment, on voulait aussi avoir leur avis à elles, en tout cas à elles deux, puisqu'il s'agit de Laure Mathis, c'est de Lisa Navarro, et c'est Perrine Malinge qui les a rencontrées. Bonjour Perrine.
Bonjour, et oui, en entrant dans la petite salle du théâtre de la Bastille, j'ai été frappée, David Jesselson, de découvrir comme le décor de Dorine s'ancrait dans tout l'espace. C'est bien simple, on entre dans le salon des deux personnages, Dorine et André Gors, qui est lui aussi cet espace extrêmement habité, moquette épaisse et plafond tous les deux beige, meubles en bois, lampes années 60-70, platine vinyle. Et s'il y a bien tout Marx en Pléiade, les livres de Michel Foucault, d'Anna Arendt, de Camus, tout ce qui constitue leur monde intellectuel, on trouve aussi Raymond Depardon et des tas de détails, d'objets dans tous les coins, tous les recoins, des lettres, des livres, des journaux, des crayons, des petits ex-voto. On dirait presque que l'espace est empli de gris-gris. J'ai appris que vous aviez vous-même demandé à tous vos collaborateurs que vous venez de citer de faire un cadeau à Dorine à travers Laure Mathis pour aider à la faire exister, une équipe qui est unie chaque soir symboliquement dans la préparation de l'apéro qui accueillera le public au début du spectacle. Le Bourgogne qu'adore Dorine, Graissin, tomates cerises, c'est comme à la maison. En entrant à pas feutré, j'étais secrètement attirée par ce grand meuble en bois qui occupe le mur du fond du décor, et c'est vers ce grand secrétaire que Laure Mathis, qui interprète donc Dorine, et Lisa Navarro, scénographe et chineuse de tous ces objets, m'ont dirigé au milieu de ce monde, votre monde, David Jesselson, où avec émotion se tissent le réel et la fiction.
Voilà mon bureau où j'ai utilisé des objets qui appartenaient à ma grand-mère, mais énormément inspirée. Et donc, alors, pour moi, vraiment, l'espace le plus important, c'est mon bureau, comme un refuge. Tous les soirs, il y a un moment où je vais au bureau et j'écris une lettre pendant que David parle, et j'écris vraiment une lettre. Et je m'imagine que ce sont en fait les faire-part de décès, parce qu'ils ont écrit des faire-part de décès qu'ils ont laissés dans la maison avant de se tuer. Et donc je m'imagine ça, que je prépare tous les faire-part pendant que Gérard est encore en train de s'apitoyer sur ma maladie. Je pense que David avait déjà pas une idée précise, mais il voyait déjà un paysage autour de Dorine, il avait déjà une voix un peu dans la tête, et quand je suis arrivée, j'ai un peu heurté ça dans le bon sens du terme. Je suis arrivée, moi, avec ce que je suis, avec mon physique, avec ma voix et avec aussi mon histoire. On a beaucoup, beaucoup parlé, au début, énormément, de nous, de nos vies de couple, de nos visions de la mort, du monde, et de la lettre AD, bien sûr. Et j'ai aussi écouté une émission sur France Culture où le couple est invité...
Surpris par...
Enfin, je crois que c'est quelqu'un, une journaliste qui vient chez eux.
La nuit...
avec André Gortz et D.
Et on l'entend parler, elle.
Que Dorine, ce n'est pas un nom très courant en France.
Et ça, ça a été vraiment mon terreau de départ.
Il existe chez Molière.
C'est rien d'elle, en fait. Et il y a cette émission de France Culture qui, quand même, est, pour moi, c'était une pépite, en fait, parce que rien que sa voix, on entend tout.
Il y a quoi dans sa voix ?
Il y a son âge, évidemment.
C'est difficile de répondre.
Et les silences aussi, elle, il y a beaucoup de silence quand on lui pose une question. Elle met beaucoup de temps avant de répondre et elle dit très peu de mots. Elle va à l'essentiel, en fait, il n'y a pas de gras, il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de résidus.
La traite, c'était son premier livre. Avant de le voir écrit, il était quelqu'un de totalement invivable.
Mais alors, ça m'a à la fois énormément servi et beaucoup impressionné parce que pendant longtemps, je me suis dit, je n'arriverai jamais à jouer ce rôle. C'est pas possible, je suis trop jeune. Je ne pourrai jamais transmettre ce qu'elle arrive à transmettre juste en trois phrases. Mais bon, mais ça, ça a été tout le travail pour moi, vraiment. Voilà.
Mais qu'une fois qu'il avait écrit, il était devenu plus humain.
De trouver une autre façon de respirer, de bouger et de penser, oui. Ouais, de travailler sur les silences qui ne sont pas mes silences. C'est très étrange de jouer la figure de quelqu'un qui a vécu il n'y a pas si longtemps et qui n'est pas un personnage mythique ni imaginaire. Ou... Et donc j'avais une forme de délicatesse, mais un peu de politesse aussi. J'avais peur en fait de la brutaliser ou de la trahir ou de la... C'est tout un chemin, quoi. Je suis partie, elle était loin, 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 et on s'est retrouvés au milieu du chemin. Et je pense qu'il y avait de la pudeur aussi entre David et moi. Puis on est tellement à nu sur ce plateau, c'est de la pudeur aussi d'amener... de regarder l'autre amoureusement et en même temps on est tellement regardé tout le temps qu'on parle ou qu'on parle pas. Du coup, il y a un truc très cinématographique parce que on doit pas juste être juste quand on parle, il faut être juste quand on bouge, quand on est assis, quand on tourne un peu la tête, quand on cligne des yeux, enfin c'est le moindre geste faux ou pas vraiment pensé ou pas vraiment plein, ça joue contre nous, ce qui est moins le cas je trouve sur un grand plateau où on est un peu plus loin des gens, on peut quand même on peut un peu se rattraper On est épinglés. Avec David, on se fait beaucoup de retours après chaque représentation en termes très musicaux, en fait. On se parle plus comme des musiciens où on se dit qu'il faut qu'on groove, qu'on jazz ensemble. Il y a quelque chose de très animal et instinctif de sentir, en fait, comment on rentre dans l'air, dans la matière, je sais pas comment dire. C'est vraiment des équilibres de rythme et de silence. Mais ça reste très vivant, en tout cas. C'est dans un mouvement de pensée, donc c'est très joyeux au final parce que c'est mouvant.
C'est 12. Il faut ramener du Bourgogne. D'accord. Hein ? Alors, t'as trouvé des graissins ou pas ?
Il est 6 heures passées.
Ça va ou pas ?
Oui, c'est très bien. Je suis Lisa Navarro, la scénographe de Doyle. Il y avait cette question très fortement comme envie de vraiment inviter les gens chez nous, des invités chez Gérard et Dorine dans notre fiction, comme dans un salon. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses dans le spectacle qui dénotent de cette idée, à commencer par le fait qu'on leur propose de boire un verre. On est quand même pris dans une chose assez feutrée. Et ça change, je pense, la manière qu'on a de s'exprimer. Enfin, on baisse un peu de niveau. C'est comme si on était chez quelqu'un, on fait un peu plus attention. Il y avait quand même pour moi... des lettres AD, quelque chose de la mise en scène. Elle lui dit qu'elle n'aimerait pas forcément que cette lettre soit publiée, il décide de quand même le faire. À partir de là, il y a déjà mise en scène pour moi, enfin, il y a déjà représentation de la réalité. Donc j'avais envie de trouver un espace qui permette ça, c'est-à-dire à la fois d'être vraiment être très émue et dans l'immédiateté de cette émotion et de cette proximité, et en même temps ce mécanisme de mise en scène un peu pervers aussi. De dire, voilà, on vous montre comment on vit, en même temps, regardez notre intimité, cette chose ambivalente. Moi, l'élément qui a été complètement... Enfin, il y en a plein. Bah, disons, il y a un meuble pivot, c'est vraiment le meuble du double secrétaire, le grand meuble. On a greffé plein d'objets à l'intérieur. C'est un meuble assez hybride, parce qu'il fait aussi penderie. Et puis surtout, il y a ces deux bureaux qui permettent d'avoir les deux personnages donc comme deux possibilités de fiction qui pouvaient s'ancrer dans ce meuble, vraiment, de manière très concrète. Il y avait déjà, dès le départ pour David, vraiment au tout début de son idée du spectacle, l'envie de se détacher du côté documentaire, parce que l'idée n'était pas du tout de faire un biopic, loin de là, en fait. On n'a pas la prétention, je crois, de dire qui ils étaient ou comment ils vivaient. Personne ne le sait, ça. C'est vrai que de revoir les objets, il y en a que j'ai oublié, parce que, mais il y a toujours un petit coup de cœur, quoi. Bon, après, on a des petits détails. Moi, je sais pas, il y a cette carte postale de Rothko qui est à côté des fleurs séchées, enfin, des eucalyptus. Et alors ça, c'est un truc qu'on aimait vachement. Le bleu avec le doré et le... C'est des petites rencontres colorées, des petites vibrations qui juste font... Moi, j'aime bien l'idée aussi que chaque spectateur se raconte un petit truc avec des objets, avec les objets qui sont dans l'espace. Ou pas, en fait. Si ça marche pas, c'est pas grave. Enfin... Bon, voilà, c'est des petits détails. Peut-être que les gens ne les voient pas. Ah, ça, c'est j'aime bien. Ça, c'est un vieux magazine des Cahiers du cinéma que j'avais piqué à mon père et que j'ai gardé pendant des années, donc 1979.
C'est le numéro 300.
Ouais. Puis c'est assez rigolo parce qu'il y a tout un truc sur Jean-Luc Godard. Et puis dans le spectacle, il est mention de Jean-Luc Godard, bien sûr, qui écrit une lettre d'insulte à Gérard. Non, mais il y a des éléments documentaires et des éléments complètement fictionnels que nous, en tout cas, on a décidé de rapporter. On navigue entre ces pôles, quoi, de toute façon. On essaye aussi de créer quelque chose, de produire des images et qui parviennent aux gens.
David Jesselson, on entendait Laure Matisse rappeler que vous êtes au milieu des spectateurs, ce spectacle dure une heure, et que même quand l'un de vous deux ne parle pas, l'attention, elle reste, parce que vous êtes tous les deux seuls, et on vous dévore des yeux l'un à l'autre. Je me suis demandé si justement, pour vous aider à tenir sur ce fil dont on parlait il y a, juste avant le reportage de Perrine, si l'énergie du public était indispensable à ça, pour pas tomber, justement.
Elle est fondamentale, indispensable, elle est risquée, elle est dangereuse, elle est terrible. Je veux juste dire, avant de répondre plus précisément à la question sur la chose de l'espace, que le travail que fait Jérémy Papin en lumière, il est aussi fondamental pour nous à l'endroit de comment on est vu et comment on se sait ou pas regarder. Parce qu'on est dans des clairs-obscurs, on est dans des moments où on peut disparaître aussi grâce à ça, parce qu'on est dans une chose complètement domestique, ce qui a été un vrai risque, un vrai pari. Comment on fait pour éclairer une scène de théâtre avec que des lampes domestiques? Et cette idée du plafond qu'ils ont eu en commun avec Lisa nous le permet. Ça fait qu'effectivement, on est dans une chose ambiguë, on est complètement avec les gens. Et après, moi, je sais qu'il y a des moments où on peut ne pas être regardé. C'est à la fois terrifiant et passionnant, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a plusieurs points de vue. Il y a des zones de l'espace dans lesquelles on est en contre-jour pour 35 personnes. Et on est en pleine lumière pour les 40 qui sont en face. C'est génial parce que ça devient de la tauromachie pour nous acteurs. C'est-à-dire qu'on peut plus du tout faire abstraction des gens qui sont face à nous. Et ça nous met dans une chose naturaliste qui est passionnante à gérer. Moi, mon idée, ça a été de faire comme ce que j'ai compris que faisaient Gérard et Dorine. Ils invitaient beaucoup les gens à la maison. Donc on invite les gens à la maison et quand on invite les gens chez soi, bah, on se montre. Mais il y a des zones où on se planque. Tout en se montrant. Donc, c'est cette dialectique-là qu'on essaie de mettre en place.
En tout cas, ça donne un beau spectacle qui fait réfléchir, qui donne envie, alors je vais dire non pas de lire André Gorz, forcément, mais en tout cas de lire Lettre AD, qui est toujours disponible aux éditions Galilée, Histoire d'un amour, superbe récit. Et puis ce spectacle, Dorine, qui donc tourne, il est au Théâtre de la Bastille jusqu'au 24 mars. Et ensuite, il y aura, je crois, deux soirées à Rennes, dans le cadre du festival Mythos en avril. Merci à vous, David Jesselson.
Merci beaucoup.
Au revoir. L'humeur vagabonde se retire sur la pointe des pieds. Nous nous retrouverons, si vous le voulez bien, dimanche prochain. Je recevrai Anne et Julien, les créateurs de la magnifique revue Hey. Et bien sûr, France Inter continue, puisqu'après les informations de 15h, vous avez rendez-vous avec Fabienne Chauvière et les Saventuriers. Très bon dimanche à l'écoute de France Inter.